Vous pouvez ouvrir votre Bible en Jacques chapitre 4 pour commencer. Jacques chapitre 4, versets 13 à 17, puis on lira un deuxième passage. Jacques chapitre 4, versets 13 à 17. Verset 13. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et on va lire dans Luc chapitre 12, un autre passage bien connu en relation, chapitre 12, versets 16 à 21. Luc 12, 16 à 21. C'est bien en relation avec le psaume 90, hein, on ne s'était pas vu en fait. Concerté, voilà. Donc Luc chapitre 12, versets 16 à 21, hein, une parabole. Et il leur dit cette parabole, c'est Jésus qui parle, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte ?» Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toutes mes récoltes et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera recommandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Vous avez compris, ce matin, on va parler un peu des projets. Vous avez des projets dans la vie ? Ouais, des bons projets, j'espère. Pas des mauvais, hein. On a tous des projets pour l'avenir, et je pense que c'est très bien d'avoir des projets, parce que sinon on est en plein dépression, hein, généralement. Mais c'est bien d'avoir des projets, et sans les projets, je pense que la vie serait aussi triste. C'est ce qui nous fait un peu avancer, j'ai l'impression, dans la vie. La question, c'est maintenant comment on va les mettre en place, ces projets ? Parce que c'est bien d'avoir des motivations, c'est bien d'avoir des envies, mais... Il y a aussi comment mettre les choses en place. Quels sont mes repères par rapport à ces projets? Quels sont mes conseillers? Comment je vais faire? Qui est-ce que je vais aller voir? Comment je vais mettre en place, en fait, ce projet dans ma vie? Ou alors, peut-être, jusqu'à présent, vous dites, je fais mes projets et puis je me débrouille tout seul. On va essayer d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Hein. Que la meilleure des manières de faire des projets, c'est évidemment de les faire avec le Seigneur. Il faut être chrétien pour ça, on est bien d'accord. Avant, on faisait nos projets nous-mêmes. Ça marchait pas. Mais faire des projets avec Dieu, c'est quand même différent. On va voir quatre choses, hein, mais les projets de l'homme, d'abord en général, puis il y a une mauvaise conception des projets qu'on peut avoir. Il y en a une bonne, par contre. Et puis, il y a des avantages à faire des projets avec Dieu. Vous le saviez ? Ouais ? Bon, j'ai rien à vous dire, alors. Les projets de l'homme. La vie est pleine de projets, on l'a dit, et tout le monde fait des projets. Alors, si on reste un peu coincé dans le contexte, on voit qu'il y a là des hommes d'affaires qui faisaient des projets. Ça, on sait qu'ils en font beaucoup. Il y a les riches, il y a les chrétiens, il y a des non-chrétiens, il y a vous-même qui faites des projets. Petits et grands font plein de projets. Et quelqu'un disait, un homme sans projet est l'ennemi du genre humain. S'il n'y avait plus aucun projet sur la Terre, ce serait bien triste, à mon avis. Et tout serait fini, en fait. Hein. Il n'y aurait plus rien. Vous n'avez pas le projet de faire un supermarché, vous n'aurez plus rien à manger. Hein. Ah oui, si vous n'avez pas le projet d'élever des vaches ou faire des steaks ou je ne sais pas quoi, il n'y aura plus rien en fait. Donc il faut des projets évidemment et le Seigneur n'est pas contre les projets. On a besoin de vivre, on a besoin de s'occuper pendant le temps que Dieu nous donne sur cette terre. Et bien souvent, on l'a vu, nos projets oublient la réalité de notre nature parce que nous sommes des êtres mortels. Moi j'aimerais bien être éternel mais ce sera un peu long sur cette terre on va dire. Je suis content d'être éternel pour voir le Seigneur mais... On a cette réalité qui, des fois, nous échappe et on vit comme si on n'allait pas mourir. Hein, même les chrétiens, bien souvent, on oublie cela dans notre vie. Et on se projette un peu comme si on était immortel dans tous ces projets, dans tout ce que nous faisons. L'homme riche de Luc, par exemple, lui, il pensait vivre longtemps puisqu'il va faire des projets. Et quelque part, vouloir vivre, c'est tout à fait humain. Enfin, je ne sais pas, à moins que vous ayez envie de mourir aujourd'hui, voilà, c'est humain. C'est bien de vouloir vivre. Après, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Mais c'est humain de vouloir vivre. Mais voilà, le trafiqueur de Jacques, lui, planifiait sur un an. Il n'imaginait pas que Dieu allait le ramener ou que Dieu allait les reprendre un jour. Et en fait, dans ses projets, dans leurs projets, ils n'incluaient pas le facteur mort ou partir. Quand on fait des projets, je pense qu'il faut aussi l'inclure, sans vouloir être morbide, on est bien d'accord, pas penser à notre mort tous les jours. Mais comme il disait tout à l'heure, moi aussi à 40 ans, je me suis dit, oula, je commence à vieillir. Bon, j'ai plus que 40 ans maintenant. Mais est-ce qu'on inclut ce facteur dans nos projets? Parce que je pense que c'est important, plutôt de se sentir immortel, croire qu'on est capable de tout. Et inclure ce facteur, c'est forcément inclure Dieu là-dedans. On a peut-être des fois une conception un peu trop optimiste du temps. Job 5, 12 disait, il anéantit, en parlant de Dieu, les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Un peu plus loin, au chapitre 17, 11, il dit, « Quoi, mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur. » On a plein de projets, mais à un moment, Dieu les arrête. Alors, pas forcément par la mort, mais d'une manière ou d'une autre. Mais on est trop... on va dire dans l'élan, peut-être, et peut-être même trop optimiste en disant qu'on va vivre 120, 130 ans. Qui pense vivre 130 ans ici? Il n'y a que moi. Bon. Bah, c'est 120 ans, la limite, mais bon, selon la Bible. Mais quand on a des projets, en même temps, je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir à ces projets. Réfléchir aussi à mon départ, réfléchir à ma vie. Si vous faites des projets, il y a aussi une famille derrière, il y a des gens auxquels il faut penser. C'est une réalité que de mourir. Hélas, c'est une réalité. Il faut s'y préparer, je pense aussi. Alors, peut-être pas tout de suite, j'espère que vous allez rester un moment, mais on doit l'avoir quelque part dans notre cœur. Jésus aussi peut revenir aujourd'hui, prendre l'Église. Ce serait bien pour ne pas travailler demain, comme je dis, mais ouais, ça nous arrangerait bien, je pense. Mais si j'avais plein de projets et que j'y tenais à un point et que finalement je n'ai pas envie d'être enlevé à ce moment-là et que j'arrive devant le Seigneur, moi j'avais une maison à construire, j'avais des choses à faire. Il n'y a pas que ça à faire. Le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à laisser tous nos projets aussi? Parce qu'on peut être esclave de nos projets, hélas. Mais si le Seigneur vient, il veut qu'on s'en fiche en fait de tout cela. Lui est beaucoup plus important que nos projets. On doit aussi comprendre notre responsabilité dans les projets. Il a dit tout à l'heure dans Jacques, celui qui sait faire bien et ne le fait pas, souvent on s'arrête là, mais il dit, commet un péché. Si moi je n'inclus pas Dieu dans mes projets... alors que je sais que je dois le faire, en tant que chrétien, je le sais normalement, ben quelque part, il dit je pêche, moi j'irai plus loin, je suis stupide en fait, excusez-moi le terme, mais pourquoi ne pas inclure Dieu dans mes projets alors que je sais qu'il veut être avec moi, qu'il veut m'aider et qu'il peut faire un tas de choses? C'est être stupide quand même, non? À y réfléchir. Et on est bien souvent stupide, hélas, parce qu'on fait les choses tout seul ou très très rapidement, parce que, bon. En fait, quand je veux écarter Dieu de mes projets, j'écarte quelqu'un qui a créé la terre, le monde, vous, votre cerveau, quelqu'un qui est absolument tout puissant. C'est pas génial d'avoir un allié comme ça dans les projets? Non? Venez pas me voir pour vos projets, moi je suis pas très... je suis pas génial en fait là-dedans. Mais Dieu, lui, il peut absolument tout parce qu'il sait aussi tout par avance et il peut des fois arrêter le projet justement pour vous éviter une ruine ou je sais pas quoi. Dieu est tout puissant et bien souvent on oublie qu'on a quelqu'un, une espèce de partenariat là possible avec Dieu et avec sa toute-puissance. Quand je refuse de l'inclure dans mon projet, je me punis quelque part. Bon, je ne le fais pas consciemment, mais je me punis. Et je refuse en fait une aide absolument extraordinaire de la part de Dieu. Et combien de projets on a fait sans Dieu? Beaucoup. Alors quand il s'agit peut-être des grands projets, construire une maison, acheter peut-être une voiture, là, oh, Seigneur, j'ai besoin. Mais les petits projets, bien souvent... oh, on n'a pas besoin de Dieu, on va réussir à se débrouiller tout seul. Nous sommes responsables de nos projets, nous dit la Bible. Et quand il y a un échec, alors là, quand le projet n'a pas réussi, qu'est-ce qu'on fait? C'est ta faute. Tu m'as pas aidé, tu m'aimes pas. Mais est-ce qu'on l'a inclus dans le projet? Et bien souvent, ça sera non, évidemment. Mais on aime bien râler après Dieu, parce que les choses ne marchent pas comme on voudrait. Et Dieu, des fois, il doit nous regarder du ciel en disant, les pauvres, si vous m'aviez inclus dedans, ça va peut-être... fonctionner ou je vous l'aurais refusé. Donc inclure Dieu dans mon projet, dans nos projets, c'est tout simplement ma responsabilité. Dieu voudrait être tout le temps dans tous nos projets, mais il ne va pas s'imposer. Il dit, écoute, voilà, tu es responsable, tu peux venir me voir et on va en parler. Enfin, on va en parler. On va exposer tout cela et puis je vais t'aider ou pas dans tes projets, mais c'est ma responsabilité. Et si j'écarte cette responsabilité, il y aura forcément des conséquences. Généralement, c'est plutôt négatif. On ne met pas Dieu dans ses projets. Donc on l'a dit, les projets sont nécessaires à l'homme ou à la femme, évidemment. La question, c'est comment est-ce que nous les faisons? Comment est-ce qu'on les met en place? On parle d'une conception mauvaise, on pourrait dire, des projets, d'après tout ce qu'on vient de lire. Première mauvaise conception de des objectifs, c'est rechercher le profit, faire des projets pour gagner plein d'argent. Je ne dis pas qu'il ne faille pas travailler. La Bible dit qu'il faut travailler. Il y a une différence entre travailler pour se nourrir, vivre correctement, et vouloir devenir riche, absolument riche, le plus riche du monde entier. J'aimerais bien avoir 1 milliard un jour sur mon compte. Je tomberai dans les pommes, à mon avis, mais hein, et mon banquier va être content d'ailleurs. Mais bon. Mais ce n'est pas le but, je crois. Mais il y a des hommes, comme on a vu, l'homme riche de Luc, hein, lui, il voulait amasser plus de richesses et met tout en place, il met des projets en place pour cela. Peut-être qu'il aurait pu s'arrêter un moment et se dire maintenant que je suis tellement riche, pourquoi pas le partager avec ceux qui sont pauvres, en prenant compte que je risque de mourir bientôt. Hein, en prenant compte que je risque de mourir. Il a oublié le facteur, justement, mort. Les trafiqueurs en Jacques, eux, ils voulaient gagner encore de l'argent. Dans le grec, obtenir un gain, en fait. C'est vouloir toujours plus. Et évidemment, notre société aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est carrément dans cet élan. Et elle nous conditionne à vouloir toujours de plus en plus de choses dans notre vie. Les mauvais projets sont vus de Dieu. Hein. Dans le psaume 37,12, il est dit « Les méchants forment des projets contre le juste et ils grincent des dents contre lui. » Le psaume 140, verset 9, « Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'il ne se glorifie. » Moi, des fois, quand je regarde les infos, je me demande quand même qu'est-ce que fait Dieu avec tous ces mauvais projets dans ce monde. Quand on a le projet d'aller faire la guerre quelque part, bon, les gens ne le demandent pas à Dieu s'il faut aller faire la guerre, on est bien d'accord. Hein. Mais on se demande des fois qu'est-ce que fait Dieu. Pourtant, je crois que Dieu est souverain et il agit en son temps. Et si on voit des choses mauvaises peut-être se mettre en place, eh bien Dieu voit tout ça. Dieu regarde. Mais il a son temps, on l'a dit tout à l'heure. Il ne va pas réagir comme nous à la vitesse qu'on voudrait. Heureusement d'ailleurs. « La vie ne dépend pas de nos biens », nous dit Luc 12, 15. Hein. Puis il leur dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Ne montrez pas votre carte bleue, vos comptes en banque, vos grandes maisons, vos grandes voitures. Ça m'importe peu. Là où on regarde, et là où on regarde Dieu, c'est votre cœur hein, et votre relation avec lui. Et le monde, lui, convoite plus que Dieu, hein, plus que beaucoup de choses, et cherche le gain, finalement la vanité dans ce monde. Moi, j'imagine un milliardaire qui meurt, qui se retrouve devant Dieu, il doit se reposer, il doit cogiter à ce moment-là. Hein, surtout s'il a refusé, en plus. Mais quelle vanité, en fait, des fois, de rechercher les gains. Mais on convoite, et c'est propre à notre chair. Et on n'a pas besoin d'être milliardaire pour convoiter le dernier iPhone ou le dernier machin. On va tout faire pour l'avoir parce que c'est tendance. Hein. On est comme ça. Hein. Regardez bizarre, mais on est comme ça. Alors, c'est pas forcément le iPhone qui aime les Samsung. Hein, mais bon. Je ne vais pas faire de pub. Il faudrait que je fasse ça. Bien. Mais Jacques nous rappelle que la convoitise commence dans notre cœur et on a tous de la convoitise. La chair est encore là et la chair, elle aime convoiter. Elle aime le péché. Je suis désolé de le dire, c'est vrai. Heureusement qu'en tant que chrétien, le Saint-Esprit est là pour justement s'opposer à tout cela et nous transformer au fur et à mesure. Mais il a beaucoup de travail avec chacun d'entre nous. Et c'est vrai qu'en plus, si on est conditionné par la société tout le temps, ben forcément, c'est un sacré combat. Il y a aussi une mauvaise conception du cœur, peut-être, dans ces projets. L'orgueil, par exemple, dans Jacques 4, 16, hein, ou la présomption, hein, devenir le gagnant. C'est ça, aujourd'hui. Vous n'allez pas voir dans une... Enfin, vous n'allez pas créer une société pour être moyen, on va dire, par rapport aux autres, ou pour être en bas. Vous êtes là pour être gagnant. Quand vous allez travailler, votre patron ne vous dit pas « Fais pas trop de travail aujourd'hui, parce que j'ai pas envie d'être trop le gagnant aujourd'hui, c'est ça ?» Ben non. On veut toujours être le gagnant. Or, même en tant que chrétien, on aime bien être les meilleurs, évidemment. Mais c'est pas tout à fait comme ça que Dieu voit les choses. Hein. Mais le monde nous pousse à cette conviction, même en tant que chrétien. Et on fait tout pour être le gagnant, pour être le meilleur partout. Parce qu'on nous met la pression, etc. etc. Alors, je ne dis pas qu'il faut être nul, hein. On est bien d'accord. Moi, j'aime bien aussi être gagnant, on va dire. Mais ce n'est pas mon objectif principal. Hein. Il y a d'autres choses beaucoup plus importantes. Puis le monde cherche une situation confortable, prédominante. Hein. J'aime bien rentrer ma voiture le soir et montrer à mon voisin que je fous de plus que lui ou 3 milliards de plus que lui. Hein. Oui, mais peut-être pas nous en tant que chrétiens. Mais le monde, c'est comme ça que ça marche. Hélas. Hein. On a bien montré aux autres et puis le jour, on perd tout. On a l'air faim. Ça, c'est la réussite sociale selon le monde. Ouais. Être riche, avoir tout ce qu'il faut, c'est ça, la réussite. Et quand on voit ces gens qui ont réussi, c'est bien triste dans leur cœur. C'est bien vide dans leur cœur. Et ils abordent la vieillesse bien souvent mal, et finalement partent, et ils n'en portent rien. C'est ça, la réussite sociale. Bravo. Il y a l'égoïsme aussi du cœur, qui sert souvent notre ego. Il ne sert jamais mon prochain, l'égoïsme. Il ne sert surtout pas Dieu. Et si j'ai des biens, comme l'homme tout à l'heure riche, et que je vais les garder juste pour moi, finalement, ça ne sert à personne, sinon qu'à moi-même. Et c'est bien triste. Je ne dis pas qu'il faut donner tout notre argent à tout le monde et n'importe comment, on est bien d'accord. Avoir un peu de sagesse aussi. Mais si je suis milliardaire à un moment, à quoi ça me sert d'avoir un milliard? Moi, j'arrive à vivre avec 10 000 euros par mois, éventuellement. Hein. Et largement, je crois que vous aussi. Mais un milliard ou un million, je crois que... Je ne sais pas qu'est-ce que j'en ferai, d'ailleurs. Hein. Mais voilà, si le Seigneur permet de devenir riche, et il y a beaucoup de chrétiens qui l'ont fait, à un moment, on s'arrête de s'enrichir et on partage. Et Dieu permet juste là. Alors vous n'avez pas besoin d'être milliardaire hein, pour partager, hein, on est bien d'accord. Hein. Si vous êtes millionnaire, c'est déjà pas mal, et si vous avez un peu moins, c'est aussi bien de partager. Mais l'égoïsme, dans le cœur, va dire « Oh, garde ça pour toi, hein, tu ne sais jamais si demain il se passait quelque chose. » Mais demain, c'est Dieu qui décide. Dans ce cœur aussi, il y a souvent l'absence ou le rejet de Dieu, parce que l'orgueil va détrôner Dieu forcément, et le moi remplace Dieu. Et finalement, l'homme cherche quelque part son indépendance. Je veux être indépendant, je ne veux pas être lié à Dieu ou à un patron, je ne sais pas quoi. Et dans la mesure où on peut, on essaie d'être indépendant. Alors je le suis professionnellement et je suis content de l'être, hein, mais pas indépendant de Dieu. Parce que justement, je crie beaucoup à lui. Mais bien souvent, notre assurance de l'avenir, parce que vous imaginez que vous allez faire quoi demain? Ah, dites-le, vous allez travailler, non? Ah oui, et puis la semaine prochaine, vous allez projeter quoi?
De retravailler.
De retravailler. Et les vacances, vous les avez projetées?
Non.
Non, oh, non. Je vous plains. Hein. Moi, si.
Moi, non.
Mais on se projette, on est bien d'accord. Hein. Et quelque part, des fois, en se projetant, on est sûr que les choses vont arriver de cette manière-là. Bon, c'est normal, il faut le faire. Hein, parce que si on est chaque fois négatif, on ne va plus rien faire. Mais en même temps, il faut en avoir conscience, je pense. Et notre assurance-là, ben, des fois, nous suffit, alors qu'en fait, on est fragile. On l'a vu tout à l'heure dans le psaume 90. Psaume 33, versets 10 à 11, dit « L'Éternel renverse les desseins des nations. » Pas les miens, hein, des nations, c'est dire. « Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » J'ai confiance dans mon avenir. J'ai le droit de me souvenir que je suis fragile. Mais en réalité, tout dépend de Dieu. Heureusement. Il y a la mauvaise conception aussi de l'avenir. Hein. Alors, on l'a lu tout à l'heure dans Jacques. Hein. Qu'est-ce que l'homme en réalité? On lui apprend à compter ses jours dans le psaume 90, mais Jacques dit on est éphémère, une vapeur qui passe pour peu de temps et disparaît. Enfin, je me dis, un jour je vais mourir, qui va se souvenir de moi? Voilà, je suis passé là, à un moment dans l'histoire de ce monde, et il y a tellement de gens qui partent aujourd'hui, on ne les a même pas connus, et on n'est rien en fait, en réalité. Par contre, on peut laisser des choses, comme une église ou pour des chrétiens, etc. Ça, c'est merveilleux. Mais on n'est pas grand-chose. Et pourtant, quand on est sur la terre, on semble être quelque chose d'important, d'énorme. Hein. Des fois, il faudrait pouvoir avoir le recul, comme l'astronaute la dernière fois qui est redescendu, hein, qui voyait la Terre de loin. Moi, j'aimerais bien avoir cette vision de moi hein, dans l'espace ou loin dans l'espace et me regarder. Et dans notre cœur, on est immense, grand, on est capable de faire tout, de renverser tout. C'est quand même terrible, hein, comme on est orgueilleux parfois. Mais on n'est rien du tout, et la fin de la vie, ça ne dépend pas de l'homme. Hein. Vous pouvez manger 5 fruits et légumes par jour, hein, faire tout le sport que vous voulez. Je suis désolé de le dire, continuez à le faire, évidemment, mais quand Dieu a décidé qu'on part, on part. Enfin, on n'abusez pas non plus, hein, on est bien d'accord. Mais ma vie dépend de Dieu, et à un moment, Dieu décidera que je m'en vais, et ce n'est pas plus mal. Hein. Il y avait un roi qui avait pleuré parce qu'il voulait plus de vie, bah, il l'a eu. C'est plutôt pas bon pour le pays. Hein. Ma vie dépend totalement. Génial. Elle dépend totalement de Dieu. Et elle est entre les mains du Créateur. Et si je dépends totalement de Dieu, si j'ai saisi que finalement ma vie, ben, elle est entre les mains de Dieu, ben, autant faire les projets avec lui. Ben, logique, quelque part. Si j'appartiens à Dieu en tant qu'enfant de Dieu, ben, autant faire le travail ensemble. Et Dieu se plaît à travailler avec moi. Je veux être prudent donc, dans mes projets, dans tout ce que je veux entreprendre. Et je pense qu'il faut être de connivence avec Dieu, tout simplement. Hein. Ce partenariat, comme je disais tout à l'heure, ben mettons-le en place. Je sais que je dépends de Dieu. Je sais que je ne peux rien faire par moi-même. Et que finalement, en tant que chrétien, j'ai absolument besoin de Dieu. Ben allons-y. Travaillons ensemble. Qu'est-ce que ça coûte, finalement? Moi, je serai gagnant au bout. Hein. Je suis toujours gagnant. Même si les projets capotent, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Mais je serai toujours gagnant. Et pas que dans les grands projets. Moi, je pense qu'on peut aller même dans le sens de ma vie au quotidien. C'est un projet, demain, d'aller au travail, de prendre la voiture. C'est un projet. Et qu'est-ce qui peut arriver dans une voiture? Vous n'avez jamais d'accident, vous, peut-être? Ça arrive. Il peut aller même plus loin. C'est un projet. Dans ma vie spirituelle, dans ma vie d'église, dans un tas de choses, je peux mettre Dieu dans mes projets. Donc on peut faire des mauvais projets, mais faire des bons projets, c'est inclure Dieu. Et c'est surtout vouloir être complètement dépendant de Dieu, et de façon humble, hein, dépendre complètement de Dieu. Notre nature a tendance plutôt à s'écarter de cette dépendance, mais les chrétiens, normalement, devraient apprendre à dépendre de Dieu. On ne va pas le faire automatiquement dès notre vie chrétienne au départ, hein, mais celui qui apprend à devenir dépendre de Dieu, ben, il va y aller de plus en plus, parce qu'il va comprendre l'intérêt qu'il y a derrière aussi. Puis la Bible nous parle qu'il y a des bonnes conceptions des projets. On l'a dit, inclure Dieu dans nos projets. Jacques 5, 15, dit « Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. » Quand vous faites vos projets, vous dites ça à chaque fois ?« Si Dieu veut ?» Ouais, ben j'espère. « Si Dieu veut. » Alors, il existait un dicton populaire aussi à l'époque, hein, qui ressemble un peu à ça. Je ne sais pas si ça a été un peu inspiré. C'est un certain Criton qui disait « Si les dieux le veulent ainsi, que cela soit ainsi. » Ça a été un peu repris. Mais bon, les dieux n'existent pas. Alors, ils peuvent vouloir ce qu'ils veulent. Ils n'existent pas. Mais si Dieu le veut, nous ferons ceci et cela. Et ça, c'est se soumettre tout simplement à la volonté de Dieu. C'est valable dans nos projets, c'est valable dans d'autres domaines de notre vie, se soumettre à la volonté de Dieu. Et si je me soumets à la volonté de Dieu, ben, je vais partager ma vie avec Dieu, dans les petits détails de ma vie, et particulièrement dans les projets. Vous savez, on se dit souvent « enfant de Dieu ». Quand vous avez un enfant, et il y a un papa, forcément. Et quand, en tant qu'enfant, moi, j'avais des projets, j'allais voir mes parents d'abord. Je n'avais pas « papa, tu n'aurais pas 20 euros pour aller faire quelque chose ben, ». C'est pareil, on est enfant de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, ça veut dire que j'ai un père, une autorité, on pourrait dire. Quelqu'un vers qui aller, avec qui partager, justement, mes projets d'avenir. Et c'est bien dommage de s'en priver. Il y a tant de gens qui, je suis sûr, dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, qui essaient de trouver un support, une aide, quelque part, qu'ils n'ont pas et qu'ils ne trouveront jamais, ou alors peut-être dans l'homme, éventuellement. Mais nous, on a la chance d'aller se jeter dans les bras de Dieu et de lui dire, voilà, papa, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton avis. J'ai envie de dire, c'est presque demander sa permission que de demander à Dieu tel ou tel projet. Demander sa permission, demander son conseil. Vous avez déjà construit une maison sans appeler les spécialistes ? Vous avez dit, tiens, moi je vais y arriver, je vais monter mes briques moi-même, je vais faire l'électricité moi-même, et à la fin, une maison abstraite. On a besoin de spécialistes. Moi j'irai vers les spécialistes, parce que c'est leur métier. C'est eux qui sont capables de faire ces choses. Ben alors, pourquoi nous on ne va pas vers le spécialiste, avec un S en majuscule ? Parce que Jésus est le meilleur des conseillers, non ? Non, vous n'êtes pas sûr. Hein. Mais j'espère que c'est intégré, on va dire. Hein. Et ce qui est formidable, c'est que quand vous téléphonez au conseiller, ben, généralement, il n'a pas le temps, ou il y a si, et puis il faut payer. Ah oui, ça se paye, une expertise. Hein. Par contre, Dieu, lui, il est là, disponible, gratuit. Il y en a un qui a compris. Hein. Et on préfère aller vers le payant, souvent. On préfère aller vers l'homme. Alors, il faut y aller à un moment, on est bien d'accord. Mais on peut demander à Dieu vers qui je dois aller, pour ne pas me faire arnaquer, parce que ça existe aussi, ça, hélas. Hein. On a quelqu'un qui est à notre disposition et qui veut absolument dispenser toute sa direction et toute son expertise. Alors, vous n'aurez pas un plan par SMS de la part de Dieu. Ça ne marche pas comme ça, on est bien d'accord. Hein. Mais je crois que si on est vraiment sincère devant Dieu, qu'on veut aller vers cette société ou là, bah Dieu peut nous guider, hein, absolument nous guider. Mais à condition, évidemment, que je me laisse faire, que je suis humble devant lui et dépendant de lui. C'est accepter les plans de Dieu. Ah, les plans de Dieu. C'est accepter la réponse de Dieu dans nos projets. Proverbe 19-21 dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Vous pouvez imaginer tous les projets de votre vie, c'est Dieu qui aura le dernier mot là-dessus. Et c'est valable pour le monde entier. Les hommes imaginent qu'ils vont s'enrichir de plus en plus, aller au-dessus de Dieu ou je ne sais pas quoi. À un moment, Dieu dit « C'est fini, c'est moi qui décide. » Le proverbe 16-1 dit aussi « Les projets que forment le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Tout dépend finalement de lui. On a beaucoup de projets, mais il faut les soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est tellement mieux de le faire. C'est pas évident de soumettre son projet, surtout quand on sait que ça va marcher. Hein, on est toujours sûr que ça va marcher. On ne va jamais faire un projet en disant « ça va pas marcher ». Vous êtes fous, hein, quelque part. Mais quand on est tellement sûr de soi, On n'a pas besoin forcément de Dieu. J'ai calculé, je sais que j'aurai des clients, je ne sais pas quoi. Hein. On n'a pas forcément besoin de Dieu. Mais des fois, les conseils de Dieu vont différer de mes conseils ou de mes conseillers. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Qui est-ce que je vais suivre? Facile d'entendre Dieu dire non à un projet, alors que vous êtes sûr que ça va marcher. Hein. Dieu dit non, freine, d'une manière ou d'une autre. C'est frustrant. Hein. J'aime pas ça, moi. Mais heureusement que des fois, il le fait. Heureusement qu'il le fait. Et c'est ça, les plans de Dieu. Accepter les plans de Dieu, c'est accepter aussi la réponse non. Ou attendre. Ça aussi, c'est une réponse. Hein. Peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je ne sais pas. Mais c'est mieux pour toi. Mais il faut être humble pour accepter cette réponse-là. Et même l'autre réponse, la positive. Hein. Il faut être humble pour être sûr que ça vienne aussi de Dieu. Il faut questionner Dieu. Et ça signifie qu'on va faire une recherche authentique. Hein. Ce n'est pas juste « Seigneur, est-ce que tu es d'accord que je construise ma maison ?» Amen. Ouais. Venez pas me voir comme ça quand vous me demandez un conseil non plus, hein, parce que moi, je vous foutrais à la porte. Un peu de respect. Mais souvent, c'est comme ça qu'on vient. Hein. On prie une fois, ça y est, je suis sûr, Dieu va agir. Moi, je crois qu'il faut aller un peu plus loin. Hein. Ce n'est pas une formule. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent « si Dieu veut ». Un peu la formule magique, « si Dieu veut », on verra. Enfin, si on réfléchit bien, des fois, il ne veut pas. Hein, mais bon. Mais c'est quelque chose qui est automatique chez l'homme. Et souvent, on se présente devant Dieu vraiment de façon automatique. Hein. C'est vraiment le supermarché. Je mets la pièce. « Seigneur, j'ai besoin d'une réponse. » « Pling, j'ai la réponse. Au revoir. » Je pense que quand on cherche vraiment la volonté de Dieu, il faut prendre le temps. Et être vraiment humble devant Dieu, faire le tri dans sa pensée, dans son projet, ça ne se fait pas comme ça. Il faut du temps. Alors, je sais que des fois, il faut aller vite, mais construire une maison, on a le temps. Hein. On n'est pas pressé non plus. Acheter une voiture, ce n'est pas urgent non plus, enfin, sauf des fois. Mais le Proverbe 21.5 dit « Les projets de l'homme diligent, c'est-à-dire qui est appliqué, quelqu'un qui fait les choses dans l'ordre, hein. Alors, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Et des fois, on va aller très vite dans nos projets parce qu'on est pressé de pouvoir enfin avoir ce qu'on avait envie. Et Dieu dit, moulou, tranquille. On n'est pas pressé. Il faut aller dans le sud pour ça. Là, on va un peu moins vite. Hein. Mais quand je vais vite, je risque de me planter. Quand je prends le temps, Dieu me travaille, je pense. Et je veux me laisser aussi travailler par Dieu. Parce que la réponse de Dieu, elle ne vient pas comme ça. Hein. Ce n'est pas un SMS, ce n'est pas un coup de fil. Allô, c'est moi Dieu. Voilà. Il faut du temps pour avoir une conviction dans le cœur. Et surtout le temps pour bien distinguer entre ma volonté et sa volonté. Parce que des fois, les deux sont mélangés et ça va plutôt aller vers ma volonté que celle de Dieu, bien souvent. Il faut du temps pour distinguer. Alors je pense que si on prend le temps déjà de lire la parole de Dieu du début jusqu'à la fin et l'avoir étudiée en profondeur pour savoir ce que Dieu veut dans votre vie, vous aurez déjà beaucoup de réponses. Mais après, on resserre le cadre et on pourrait dire qu'il y a un cadre où Dieu ne donne pas directement des conseils. J'ai jamais lu dans la Bible des conseils pour acheter une voiture. Enfin, je ne sais pas si Dieu préfère les Zara ou les... Je ne sais pas. Mais je me souviens quand j'avais acheté notre première voiture, je tremblais parce que moi, je ne connais rien du tout là-dedans. Et j'ai passé 6 mois à prier avant. Hein. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas me faire arnaquer. Je sais qu'il y a des arnaqueurs, je sais tout ça. Et Dieu a permis qu'il y avait un garagiste dans l'église qui était là et il m'a conduit. Et on a gardé la voiture presque sans panne toute une vie. Donc, formidable quand on met les projets entre les mains de Dieu. Alors, il y en a qui achètent des voitures et qui ont des pannes malgré qu'ils aient prié. Hein. Dieu a ses plans des fois. Hein. C'est chercher sa volonté, sa volonté. Et je pense que quand on cherche la volonté de Dieu, il faut lutter. Parce qu'il y a notre volonté, il y a notre chair, il y a nos désirs. Il y a les conseils des autres aussi qui vont venir. Et des fois, quand il y a tellement de conseils, on ne sait plus quoi faire. On se met à genoux et on dit là, voilà. Je suis nul. C'est ça qu'il faut dire, en fait. Hein. Bon, je suis pas nul dans le sens où on se comprend bien. Mais voilà, humblement, Seigneur, que faire? Quoi faire? Et la réponse, vous ne l'aurez pas tout de suite, hélas. Mais je pense que dans ces moments-là, c'est aussi formidable parce que le Saint-Esprit peut travailler dans notre cœur et Dieu peut travailler dans notre cœur pour qu'on change aussi notre façon de penser, de raisonner, d'agir, etc. Moi, je trouve que c'est formidable de pouvoir s'arrêter dans un projet et de laisser Dieu nous transformer. Simplement. Cela s'est aussi imbibé par la parole de Dieu. Parce que quand on cherche à faire des projets, moi je pensais bien de lire la Bible, d'essayer de la lire au maximum pour savoir ce que Dieu pense. Ou pas, hein. Il y a des projets que Dieu ne veut pas. Hein. Quand c'est un projet où il y aura le péché au bout, faites une boîte de nuit, demandez à Dieu, est-ce que tu veux que je fasse une boîte de nuit? Je pense qu'il n'y a pas besoin de réponse, hein. C'est déjà clair. Il y a peut-être des boîtes de nuit chrétiennes, hein, ça existe. Mais voilà, c'est une lutte dans la prière, c'est s'imbiber de la parole de Dieu, c'est un gros travail et qui prend du temps. Et je veux inclure Dieu parce que je veux suivre ses conseils. En Proverbe 15, 22, il est dit « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Et un peu plus loin, verset 18, Proverbe 20, « Les projets s'affermissent par le conseil, fait la guerre avec prudence. » Mais Dieu nous a donné ces versets pour nous dire « Tu as besoin de mon conseil à moi, ça c'est clair, mais tu as aussi des conseillers autour de toi. Et va vers les conseillers que je te donne. » Alors tout le monde n'est pas forcément conseiller, moi je suis nul en bâtiment, venez pas me voir. Mais il y a des gens ici peut-être qui sont capables. Mais j'inclus Dieu dans mon projet et Dieu me dit « Ok, il y a moi, mais il y a peut-être aussi des personnes qui peuvent t'aider. Va les voir, prends le temps de discuter, le temps de partager, etc. etc. » Et plus on a de conseillers, plus ça devient compliqué, je suis d'accord, mais plus vous aurez de bonne expertise. Parce que tout le monde va dire autre chose, et à un moment il y en a marre. Plus personne n'est d'accord. J'avais fait des devis quand j'étais à l'église de Reims. Chaque fois, j'avais des prix complètement différents avec autre chose pour faire l'insonorisation. Et à un moment, tu te retrouves avec tous les devis et tout le monde dit pas la même chose. Quoi. Et, c'est qui a raison là? Tu sais plus. Hein. Bon, là, on se met à prier dans ce cas-là. Mais Dieu a donné aussi des conseils humains et peut-être des experts, pourquoi pas, dans certains domaines. Hein. Mais l'avis de plusieurs est toujours utile. Vouloir travailler seul, bah, bien souvent, vous êtes perdant. Vous y arriverez un temps. Mais à un moment, vous perdez forcément. Parce que travailler seul, c'est simplement faire un caprice. Hein.
Moi, je sais.
Vous ne savez pas. Moi, je vais y aller. Je vais vous montrer. Et puis, alors que derrière, hein, je vais vous montrer que moi, je sais faire les choses tout seul. Non, non, on a besoin des uns et des autres. Ce n'est pas que valable dans les projets de vie. C'est valable dans notre communion fraternelle, dans notre vie spirituelle, dans un tas de domaines. On a besoin des autres parce qu'on a besoin de conseils. Notre pensée n'est pas la meilleure forcément. Donc nous avons, nous, en tant que chrétiens, la possibilité d'avoir une expertise divine. Hein ? C'est pas formidable, ça, dans vos projets, une expertise divine. J'insiste sur le mot « divin ». On va en profiter ? C'est gratuit, hein ? Il y a les soldes en ce moment. C'est gratuit. Pourquoi on s'en prive ? Pas que dans les grands projets, mais dans tous les domaines de notre vie. Pourquoi on se prive de cela ? C'est bien triste. Et puis une quatrième chose hein, qu'on peut voir, c'est les avantages d'inclure Dieu dans nos projets. Parce qu'il y a des avantages. D'abord, cet avantage dans la relation père-enfant. Nous, on a un papa parfait. Vos parents étaient parfaits ? Je ne veux pas savoir. Mais moi, j'ai un père là-haut qui est absolument parfait et un père qui s'intéresse à moi en tant qu'enfant. Alors, déjà, l'enfant ne sait pas toujours ce qu'il faut faire. Hein, mais par contre, mon père, lui, il a de l'expérience, je pense, depuis toute l'éternité qu'il est là. Mais on a un père parfait, et en plus, ce père, il veut le meilleur pour moi. Oh, pas génial, ça ? Vous êtes content d'avoir un papa comme ça ? Ouais. Pas très expressif ce matin. Hein. Ouais. Un papa qui veut le meilleur pour ses enfants, et des fois, le meilleur, c'est non. Comme nos papas à l'époque, hein, quand on voulait faire des bêtises, ils nous disaient non. Mais notre Père, lui, veut nous aider. Et c'est sincère chez lui, hein. Même s'il faut nous arrêter un moment, mais sincèrement, il veut m'aider. Il veut vraiment m'amener dans sa volonté à lui, parce qu'il sait qu'elle est bonne, et parce qu'il veut tout simplement mon bien à moi. Mais si j'ai un Père parfait, et comme autrefois quand j'étais enfant, il faut obéir aussi. Il faut se soumettre à ce papa. Autrefois, Paul et tous ceux qui ont travaillé pour l'annonce de l'Évangile, ils s'étaient soumis à Dieu. Ils ont traversé des choses terribles, mais ils ont réussi. Alors, je ne sais pas si on peut dire mourir décapité ou mourir, je ne sais pas, sur une croix. C'est une réussite, forcément. Mais l'Église est née et a grandi, et c'est là toute leur réussite. Hein. Donc il y a des réussites qui sont curieuses aussi, parfois. Mais ils se sont soumis à Dieu. Et peut-être comme nous, ben, on voudrait faire de Dieu notre architecte de tous nos projets. Prendre le temps de dire à Dieu, je me soumets à ce que tu veux, ben stop ce projet, ou conduis-le si c'est dans ta volonté, mais je suis prêt à accepter oui et non. On est prêt à accepter oui souvent, hein. Oui, c'est comme ça. Mais apprends-moi à accepter aussi les non, et à ne pas taper des pieds comme ferait un enfant capricieux après, en disant, ah, tu aimes les autres et tu ne m'aimes pas moi. Moi, tu m'arrêtes tout le temps, ça ne mange jamais d'argent, gna gna gna. On est capricieux des fois. Il y a des avantages d'avoir un conseiller parfait, parce qu'on peut travailler en partenariat avec Dieu. Bon, on l'a dit, il est tout puissant, mais Dieu sait tout. C'est-à-dire que lui, il sait vers qui je vais aller, vers telle entreprise, vers telle personne. Il sait exactement comment il gère son entreprise, s'il va nous arnaquer ou pas. C'est génial, non, d'avoir quelqu'un comme ça avec nous. Non ? Je suis sûr que les boursiers, là, ils aimeraient bien avoir quelqu'un comme ça. Hein. Si vous pouvez compter sur Dieu, hein, il ferait un peu plus d'argent, à mon avis. Mais nous, on a un Dieu comme cela. Mais est-ce qu'on en prend... Hein, est-ce que c'est dans notre tête est-ce qu'on a compris cela ? Il peut tout, il sait tout. Donc forcément, ben, le partenariat sera absolument parfait. On a une aide divine. On a la perfection de Dieu pour nous servir. On s'entend dans le sens de servir. Mais Dieu veut nous servir, des fois. Est-ce que nous voulons devenir un vainqueur dépendant de Jésus-Christ ? Ou un perdant indépendant. Vous comprenez l'idée ? Est-ce que j'ai envie vraiment de dépendre totalement de Dieu, de me soumettre à sa volonté et finalement avoir une victoire, même si c'est un nom, c'est une victoire quelque part, ou de vouloir être totalement indépendant et finalement bien souvent se planter ? Je parle du chrétien là, je ne parle pas du non-croyant. Je pense qu'il vaut mieux être dépendant de Jésus-Christ. De toute façon, c'est la volonté de Dieu, hein, que nous nous laissions transformer, soumis à lui, tout simplement. Et puis, vous savez, quand vous laissez Dieu inclus dans vos projets, vous l'honorez, vous le glorifiez. Et ça, on l'oublie souvent. Parce que si on veut réaliser quelque chose avec Dieu et que je dis au Seigneur, viens, aide-moi. Vous croyez que Dieu, il réagit comment dans sa... Si on peut imaginer ça comme ça dans sa tête, vous ne croyez pas qu'il est heureux de se dire, moi, il a besoin de moi. Il est content, non ? Ben oui, mais je crois qu'on l'honore quelque part quand on le met dans nos projets. Quand on l'inclut, c'est tout simplement lui dire, ben voilà, Seigneur, ben je te fais confiance. Je démontre mon incapacité de voir ben, dans le temps, de voir certaines choses, je vois, mais pas tout, ben je te fais confiance. Et quand on fait confiance à Dieu, quand on dit qu'on veut dépendre de son aide, Dieu est totalement honoré. Hein? Des fois, on veut faire des concerts de louanges, on veut faire un tas de choses pour honorer Dieu. Ben, dans ces petits domaines de la vie, on peut aussi honorer Dieu. Et je crois que c'est encore mieux. Parce que chanter, c'est une chose, mais dépendre de Dieu, c'est carrément, ça implique beaucoup plus de choses dans la vie. Et en même temps, Dieu est glorifié, c'est mettre le Père en valeur, d'abord pour moi, peut-être par rapport à l'Église, en disant, voilà, ben, j'ai des projets, mes frères, on va prier, j'ai besoin de votre aide dans la prière, mais je veux que Dieu soit là, mis en valeur. Et Dieu, il est content qu'on fait ça, évidemment. Et en plus, peut-être après, quand on aura fait ces projets que Dieu nous aura permis ou non, ben, on va pouvoir témoigner à quelqu'un et lui dire, ben, regarde, Dieu m'a préservé d'un danger. Voilà. Tous les autres, ils ont essayé de le faire eux-mêmes. Ils sont plantés, mais Dieu m'a préservé d'un danger. Et finalement, je peux témoigner. Et là aussi, je glorifie tout simplement le Seigneur dans tous mes projets. Donc les bons projets sont ceux qui incluent Dieu et qui l'honorent par son divin conseil. C'est gratuit. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit dans ce monde. Non seulement c'est gratuit, mais c'est absolument merveilleux. C'est digne de confiance. Que ça a déjà été éprouvé bien des fois par beaucoup de chrétiens, c'est quelque chose de merveilleux qu'on a à notre disposition et qu'on se refuse bien, bien souvent. Pour terminer, alors, quels sont nos projets d'avenir ? Je ne veux pas les savoir, mais est-ce que Dieu en dessine le plan ? Dans le Proverbe 16:3, il dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, on pourrait dire tes projets, et tes projets réussiront. » C'est là la volonté, évidemment, de Dieu. Un chrétien qui agit sans Dieu et consciemment, c'est-à-dire je sais que Dieu normalement doit être inclus dans mes projets, ben quelque part il déshonore Dieu. Il dit bah, j'ai pas confiance en toi, j'ai pas besoin de toi. Et comme disait Jacques, ben, finalement il pêche contre Dieu, peut-être contre d'autres aussi. Hein. Mais quand on parle des projets, alors nos projets souvent on les parle de boulot, hein, de maison, de loisirs. C'est que ça les projets que Dieu a pour nous ? Non ? Il y a les projets dans l'Église aussi. Et là, il y a une tartine, on pourrait dire, de projet pour l'Église, dans le service, dans la prière. Il y a besoin de prier vraiment, de témoigner. Et dans le Notre Père, il dit qu'il y a des choses qui sont prioritaires aussi. Et c'est justement ces projets que sont l'Église, le royaume de Dieu. C'est ça, normalement, les projets prioritaires de notre vie de chrétien. Normalement. Dieu ne dit pas qu'on ne doit pas avoir d'autres projets. Mais si Dieu est bien, bien, bien loin de ma liste de projets... Quelque part, je ne l'honore pas non plus. Les deux peuvent travailler, évidemment, ensemble. Alors que Dieu soit notre guide, et j'espère qu'il l'est, notre banquier, entre guillemets, on se comprend dans l'image, hein, notre architecte, notre conseiller dans tous nos projets, comme l'a dit tout à l'heure Proverbe, alors nos projets vont réussir, même s'ils capotent, c'est une réussite quelque part. Et finalement, bah, tout va bien dans la vie, non ? Aucun problème. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et qui nous montre des exemples de personnes qui te refusent de les inclure dans leur projet, et nous voyons comment ça finit surtout. Seigneur, nous sommes chrétiens et nous avons un Père extraordinaire, un Père qui peut absolument tout, et apprends-nous à en profiter, entre guillemets, apprends-nous à chercher cette expertise auprès de toi dans tous nos projets. Apprends-nous à être dépendants aussi de toi, Seigneur. À vraiment t'inclure d'abord dans notre vie personnelle, dans notre relation, mais aussi dans tout ce que nous pouvons faire, Seigneur. Et comme ta Bible dit, ton royaume est la priorité. Et apprends-nous à bien distinguer les bonnes et les mauvaises priorités. Apprends-nous à te servir, à marcher avec toi, à faire grandir ce projet qu'est l'Église et en même temps à faire grandir nos projets, Seigneur, personnels. Merci, Seigneur, parce que finalement, nous pouvons traverser la vie tranquillement avec toi, Seigneur, main dans la main. Apprends-nous à le faire, apprends-nous à le comprendre, apprends-nous à le vivre, apprends-nous aussi peut-être à le dire à d'autres personnes. Mais tout cela, c'est pour ta gloire. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.